Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangy.
On dit souvent que les auteurs se cachent ou se livrent dans leur œuvre. Et les quatre romans, Un verre de rosée très clair, très frais, avec des prénoms différents, écrits par Audermet, sont probablement assez vrais pour montrer la personnalité de notre auteur. Il y a une certaine similitude entre ces quatre romans, qui sont moins légers qu'il n'y paraît, même s'il y a une certaine joie de vivre, une grande joie de vivre communicative, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité de la vie. Il y a aussi beaucoup de profondeur dans ces romans, malgré la légèreté de l'écriture. Audermet, bonjour. Vous êtes né à Toulouse, dans les années 60. C'est dans cette ville que vous avez grandi, que vous avez obtenu votre baccalauréat, que vous avez suivi des études de sciences politiques, puis vous êtes parti à Paris, vous avez travaillé à Sud Radio, à TF1, à France Inter, et puis vous avez exprimé le désir de revenir à Toulouse, puisque vous êtes toulousaine depuis 500 ans ou 450 ans. Votre famille est une vieille famille toulousaine et l'appel de la terre et des pierres vous ont fait revenir dans notre belle ville rose. Vous travaillez maintenant à la mairie de Toulouse en tant que chef du protocole, ce qui n'est pas un mince travail, puisque vous organisez, je crois, 320 manifestations par an pour recevoir des étrangers venus de partout dans notre belle ville rose. Maintenant, je vais vous laisser la parole, Aude Hermet, dites-moi un petit peu qui vous êtes.
D'abord, bonjour, merci de m'accueillir. Oui, vieille famille toulousaine, on ne va pas compter effectivement les années, c'est trop long. Nous avons un vrai ancrage d'une famille qui a beaucoup donné à la ville, qui avait une sensibilité artistique et qui a pour elle d'avoir découvert aussi le pastel et donc a eu l'immense plaisir de créer une économie autour de cette fleur et de participer évidemment à la restauration aussi à un moment donné de l'hôtel d'Assesa. Donc ça, on parle d'une année et de siècles que les moins de 20 ans, moins de 200 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est une très très ancienne famille effectivement. Revenons à moi, même si l'intérêt n'est pas totalement personnel. Je suis voilà une heureuse maman de trois enfants, Victor, Olympe et Marius, une heureuse épouse voilà d'un mari qui s'appelle Luc, et tous les cinq voilà nous avons un équilibre familial. Mais j'ai la chance d'avoir eu des parents formidables qui aujourd'hui malheureusement ne sont plus là, mais j'ai un frère aîné, une sœur aînée, des neveux, un lien et un attachement familial. Et pour parler professionnel, vous l'avez dit, je travaille à la ville de Toulouse en tant que chef du protocole au cabinet de Jean-Luc Moudenc, ce qui est un réel plaisir parce que effectivement c'est la joie et c'est la rigueur, c'est le devoir de bien accueillir, de donner une belle image de notre ville, du savoir-faire, de l'accueil à la française entre guillemets, c'est-à-dire le raffinement, la courtoisie, la bienveillance, que ceux qui viennent repartent avec une belle image de la ville.
Comment, avec tout ce travail, cette famille, avez-vous eu le temps d'écrire un verre de rosée très clair, très frais, quatre tomes, dont le dernier, celui de l'émission aujourd'hui, s'appelle Sébastien. Où trouvez-vous le temps et qu'est-ce qui vous a donné l'énergie pour écrire ce livre, ces quatre livres?
Alors, le temps, c'est la nuit. Le temps, c'est dans la journée très occupée, c'est vrai que on trouve un espace que l'on s'octroie, que l'on se crée soi-même, c'est la nuit. Alors, la nuit porte conseil, mais la nuit aussi peut porter à la rêverie, à l'optimisme. Certains vont vous dire que la nuit, tous les chats sont gris, que rien ne va, que le moindre problème de la journée se démultiplie. C'est vrai. Mais aussi, on peut justement, le problème de la journée, en faire quelque chose de positif la nuit avec un peu d'imagination.
Mais physiquement, c'est quand même terrible d'habiter un petit peu à la campagne, d'avoir 3 enfants, un mari, même si tout ça roule de très bien. Le travail à la mairie est quand même très important. Il faut dormir un peu. Je ne connais que Napoléon qui dormait 4 heures par nuit et qui arrivait à faire tant de choses.
Non, je dors, mais c'est vrai que j'ai... Pour l'écriture de ce livre, en tout cas, c'était une énergie supplémentaire que j'avais la chance d'avoir. Elle ne m'a pas empêchée d'avoir des journées actives, d'être disponible pour tout le monde. C'était une énergie que je puisais peut-être dans des difficultés que j'avais connues auparavant et qui finalement se sont transformées en positif pour écrire voilà, ces 4 tomes. Bon, les 4 tomes ont pris quand même pas mal d'années. C'est vrai que la succession de la parution peut paraître très courte. On peut penser que j'ai écrit ça en 18 mois. Non. C'est une écriture qui a été longue, ça a été mûrement réfléchi. Quelqu'un de célèbre avait écrit un livre en disant que mes nuits sont plus belles que vos jours. Écoutez, moi, je dis pas que c'était plus beau, mais je dis que c'était complémentaire.
Vous venez de parler d'énergie supplémentaire pour écrire ces romans. Est-ce que vous pouvez développer ?
Je crois que lorsqu'on a une passion et lorsqu'on a un but, une envie et je vais peut-être dire frénésie aussi, on décuple d'efforts. C'est comme un sportif sur un terrain. S'il veut gagner le match, il va se donner les moyens. Alors, le final, il ne le connaît pas, mais je crois que lorsqu'on a une passion, on va puiser en soi les moyens de se donner l'opportunité et la chance d'y arriver.
Oui, mais attendez, quelle passion ? Parce qu'au début, vous n'étiez pas du tout écrivain. Vous étiez mère de famille, journaliste, extrêmement occupée. Cette passion pour l'écriture, elle est venue quand ? Comment ?
Elle est venue un peu accidentellement, même totalement, le besoin d'écrire quelque chose de joyeux, de s'inventer une histoire comme une petite fille qui traverse quelque chose de difficile. Et j'ai voulu me raconter une histoire gaie, optimiste, joyeuse et en fait très énergisante. C'est à partir de là que mes nuits ont été amplifiées par cette envie d'écrire, de raconter et de peaufiner. Parce qu'au début, on a les grandes lignes d'une histoire et puis petit à petit, on va plus au cœur du sujet. On essaie de faire quelque chose de plus apprécié, de plus logique, de plus clair, de plus concis. Ça donne une énergie, ça donne de l'énergie.
Mais nos auditeurs aimeraient savoir, pour vous copier en fait, comment trouver cette énergie pour arriver à écrire, non pas un roman, mais 4 romans, tout en étant mère de famille et en travaillant à la mairie de Toulouse.
Alors,
en tant que chef du protocole, le bidule, le machin.
Il n'y a pas de potion magique.
C'est vrai ?
Non, il n'y a pas de potion magique. Peut-être un verre de rosé très clair, très frais.
Ah oui,
pourquoi
alors,
pas ?
Alors, je répète le titre du livre, un verre de rosé très clair, très frais. Les 4 romans s'appellent de ce même titre, mais chaque fois avec un prénom différent.
Tout à fait. Alors, c'est peut-être ça la potion magique. Non, je dis ça avec humour, mais honnêtement, la passion entretient la passion entraîne l'énergie entraîne l'optimisme et ainsi de suite, c'est une spirale vers le haut, justement pour défier la spirale vers le bas pour certains. Et donc, moi, je pense que quand on traverse des choses difficiles, il faut croire en des jours meilleurs. Et donc se donner aussi les moyens, croire en soi. On est plein de ressources, plein.
Je trouve formidable ce que vous dites. À notre époque où 50% des Français ne prennent que des cachets pour se tenir et pour dormir, ce que vous semblez avoir traversé et ce que vous avez fait, jeune femme de votre vie, je m'émerveille. Et je trouve
c'est
une leçon à retenir. Dans les épreuves, trouvez-vous une passion et commencez à écrire. Est-ce qu'on peut dire, parce que est-ce que vous aviez déjà écrit, oui, en tant que journaliste, vous aviez déjà...
Alors, oui, en tant que journaliste...
Et en ayant fait Sciences Po, en plus, oui. Vous connaissiez déjà quand même...
J'avais écrit sans que ce ne soit publié ni rien, hein. Enfin, sauf évidemment les articles de journaux, mais ça, c'est... Il y a une validation, je dirais que l'exercice est totalement différent de l'écriture d'un roman, et en plus, sous un format très atypique, puisque...
Très atypique, oui.
C'est écrit comme un scénario, donc ça n'obéit en rien aux règles de la littérature. Mais par contre, c'est vrai que j'ai eu cette envie, comme j'ai eu le goût un jour de faire des tableaux, ça s'est transcrit comme ça, cette envie d'écrire. Mais pour une petite confidence, c'est que j'avais commencé à écrire une histoire pour mes enfants petits, qui s'appelle Maninon. Je ne désespère pas de le terminer, mais ça n'a rien à voir avec ce que je viens de faire. Mais j'ai toujours eu besoin d'inventer, voilà, toujours.
D'accord, donc vous avez un côté artiste depuis très longtemps. D'ailleurs, vous m'avez raconté que vous aviez eu un atelier. Donc en réalité, la peinture, l'écriture et peut-être les réceptions que vous organisez pour la mairie de Toulouse, il y a de la créativité toujours dans votre vie.
Alors grâce j'ai la chance de travailler avec une équipe formidable et effectivement on essaie toujours de donner le meilleur de nous-mêmes, donc de ne pas faire du bis repetita, mais de penser à soigner notre accueil au mieux. Alors ça peut passer par un détail de jolis bouquets de fleurs, de nappes, d'attention de cadeaux, etc. Oui, je crois qu'il ne faut pas tomber... La vie vous pousse à tomber dans le quotidien, dans la routine. On peut tous les jours faire la même chose, mais ça entraîne une espèce d'ennui.
Alors, ça n'est pas du tout votre genre.
Non.
Maintenant que je vous connais à travers vos livres, donc je répète, un verre de rosé très clair, très frais. Je vous rassure, chers auditeurs, il n'est pas sur la table. Nous restons sobres avec Audermer. Je voudrais vous parler un peu du thème de ce livre. Donc, je vous ai dit dans l'introduction, chers auditeurs, que le livre paraît léger parce que, d'abord, le titre est amusant et on a l'impression que les choses de la vie sont légères. Comment dire ? Bon, le livre parle d'amitié. Tous ces quatre romans parlent d'amitié, d'une belle amitié qui permet de tout traverser sans être trop abîmé et de surmonter. Ça cache... l'amitié prouve que pour avoir de belles amitiés, il faut qu'on en connaisse le prix. Ça veut dire qu'on a vécu des épreuves. Je pense que derrière la légèreté de ce livre, ça cache que les épreuves et qu'on peut surmonter les épreuves et que l'amitié surmonte, nous aide à surmonter tout ça. C'est un témoignage, ces livres, parce qu'en réalité, les quatre personnages de ces romans, Céline, Sylvie, Toscane et Sébastien, ont tous eu des épreuves qui ne sont pas tellement sympathiques. Et on voit cette amitié extraordinaire qui les unit vraiment... D'ailleurs, au détriment de leur famille, on peut se demander si leurs familles ne sont pas jalouses de cette amitié qu'ils maintiennent entre eux. Je me suis demandé s'ils n'avaient pas de famille pour avoir une amitié si forte, qui est prenante quand même, parce qu'on les sent très présents, très souvent entre eux. Donc, dans ce livre, beaucoup d'émotions, jamais de trahison. Jamais de trahison, rien ne se vit de la sorte. Tout est maîtrisé par l'auteur et ses acteurs, ses rencontres, des destins imprévus, des personnages fragiles, semblant fragiles, ils ne font pas que semblant de l'être, mais portés par l'amitié et par l'amour, en fait, puisque l'amitié, c'est de l'amour. Donc, ce sont des livres qui sont écrits d'une façon très particulière, puisqu'ils étaient destinés au cinéma. Donc le style est très rapide, très saccadé, très amusant. Mais finalement, on se nourrit de cette lecture. Voilà, les choses de la vie au quotidien, rien de grand dans cette vie, mais des sentiments beaux et sincères. Oui, en fait, ce sont aussi les événements du quotidien que vivent les Céline, Sylvie, Toscane et Sébastien. C'est le quotidien, donc vous pouvez vous retrouver, chers lecteurs, à la lecture de ces romans que je vous recommande. Vous pouvez mettre votre petit verre de rosé très clair et très frais. Mais maintenant, je vais reprendre les questions à Aude Hermé. Alors, j'ai été surprise, Madame Hermé, dans votre livre, puisque je sais que vous êtes amoureuse de Toulouse et on le comprendrait à moi.
Oui.
D'abord, vous nous parlez de la rue Ozène, vous nous parlez de la Vernose. Enfin, on comprend que vous possédez Toulouse dans vos veines. Je n'ai pas compris pourquoi on ne parlait jamais de rugby, ou alors je n'ai pas lu tous les romans, puisque moi je n'ai lu que le dernier, Sébastien, pourquoi on ne parlait pas de rugby, qui me paraît quand même aussi chose essentielle, avec le pastel,
alors,
qui vous a appartenu aussi.
Alors, le rugby ne m'a pas appartenu, donc voilà,
non,
voilà
mais
une des réponses.
Il n'y a pas de...
non, c'est vrai, mais ça ne s'est pas présenté. J'aurais pu parler de la violette aussi, qui est un des fleurons du patrimoine toulousain.
Oui, mais on en parle moins
quand
même. Mais
par contre, je ne parle pas de rugby, mais je pense que c'est l'esprit d'équipe et d'amitié se retrouve justement dans les valeurs du rugby.
D'accord, voilà, nous sommes d'accord.
Voilà,
oui, oui, tout à fait.
Pourquoi je ne l'ai pas nommé
Parce que vous connaissez le rugby, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr
est-ce que vos enfants en font est-ce que vous allez au match à Toulouse, comme les Toulousains de temps en temps
Non, non. Honnêtement, je soutiens le cœur, évidemment, par le cœur, le stade toulousain, son équipe, son président Didier Lacroix, ses joueurs Vincent Clerc, bien sûr. Je suis aficionados.
Bien sûr.
Non, j'ai d'autres occupations plus personnelles, mais je suis très fière des résultats du Stade Toulousain, d'autant que mon papa, mon mari, mon frère, mes fils, effectivement, sont aussi derrière la banderole pour dire « Allez, le stade !»
Voilà, mais j'ai été surprise de ne pas le voir dans les romans, parce que de même que vous n'avez pas parlé de ces humoristes si connus qui sont toulousains et que nous aimons plus ou moins, mais que nous aimons quand même les Toulousains, ça fait parler de Toulouse, parce qu'il n'y a pas si longtemps, Toulouse n'était pas la quatrième ville de France. C'est quand même une ville qui se réveille.
Alors, c'est une ville, oui, qui se réveille, mais qui se réveille aussi, et vous avez raison de le dire d'un point de vue humoristique, mais avec des talents comme dans la chanson, comme Jean-Pierre Madère, comme Big Flo et Oli aujourd'hui, comme beaucoup, comme Claude Nougaro, notre emblématique Claude, comme Jean-Pierre Rive, justement, en faisant référence au rugby. Toulouse a toujours eu quand même, des personnalités qui l'ont porté, qui l'ont aidé à vivre. Mais c'est vrai que... dans un livre, on peut pas parler
de tous ces amours de Toulouse.
Surtout quand on est sur un scénario humoristique et de comédie.
D'accord.
Et voilà.
Nous allons écouter Claude Nougaro au Toulouse pour montrer notre amour de Toulouse.
Formidable.
Je revois ton pavé au ma cité gasconne. Ton trottoir est ventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions ronflent gros. Si l'âme me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Oh mon pays, oh Toulouse, oh
d'auteur. Bellita de Bangy.
Nous reprenons avec Audermet un verre de rosé très clair, très frais, Sébastien. Audermet, est-ce que ce quatrième tome est le dernier? Ou est-ce que vous avez encore de l'imagination pour la suite ou... Dites-nous un peu vos projets.
En toute honnêteté, à l'instant, oui, c'est le dernier. C'est le dernier de cette saga. Je crois qu'à un moment donné, la boucle est bouclée. Et que s'il y avait un cinquième tome, il n'aurait pas forcément sa cohérence. Ça ne serait pas forcément naturel. Ça serait une écriture peut-être forcée. Je ne crois pas que ce soit souhaitable. Par contre, l'imagination, je l'ai toujours pour d'autres. Voilà. Donc, c'est ça qui sera intéressant. Il faudra beaucoup de temps. Il faudra retrouver aussi une forme peut-être différente d'écriture aussi, parce que celle-ci surprend.
Oui, celle-là peut surprendre certains. Oui.
Voilà. Elle peut surprendre. On adhère, on n'adhère pas. On a tout à fait la liberté. Soit on décide de se laisser prendre la main et de page en page...
On dévore.
On dévore. Mmh. Soit effectivement, le style est un peu surprenant et auquel cas, on s'arrête un peu vite, trop vite sans doute, mais voilà.
Oui, donc, c'est dommage. Donc, c'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout, parce qu'on va quand même de découverte en découverte.
Et puis, il y a de l'humour, il y a de la gaieté.
Oui, il y a beaucoup de gaieté.
Donc, voilà, il y a beaucoup de gaieté, il y a de l'optimisme, il y a de la joie, il y a de la rigolade. Donc, je pense que c'est... Voilà, il faut franchir un peu les codes. Effectivement, je les ai franchis, j'avoue.
Oui, oui, oui.
L'Académie française ne m'en voudra pas, j'espère.
Mais maintenant, beaucoup de gens les franchissent, voilà. Aussi, ces codes.
Donc, non, c'est tout à fait simple, ce que j'ai fait. C'est très personnel. Ça juste le but de faire du bien à ceux qui ont envie de... Voilà, à ceux qui le lisent et qui ont envie de le lire. Voilà.
Ce Sébastien, on a quand même l'impression que vous l'avez rencontré. Ça n'est pas que le fruit de votre imagination. Il est tellement sympathique.
Il est... Oui, c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs Sébastien.
D'accord.
Voilà, dans lesquels j'ai trouvé justement ces traits de caractère, de bienveillance, de soutien, de grand frère, de confident, d'être là, de sensibilité. Je pense, comme je l'ai écrit aussi, c'est qu'on a tous quelque chose en nous de Toscane, Céline, Sylvie, Sébastien, Mathilde, Vincent, tous ces personnages, en fait, ils existent au travers de chacun. Voilà.
Oui, ça, c'est votre côté très optimiste. Je trouve ça formidable. Moi, ce qui m'a surprise quand même à travers la lecture de ces livres, c'est qu'il n'y a jamais personne qui ronchonne.
Non, alors, ils peuvent ronchonner à leur manière. C'est notamment Sylvie, quand elle va se retirer, justement, et s'isoler, parce qu'elle a besoin de se reconstruire aussi. Mais c'est une manière... C'est pas du ronchonnement.
Non, c'est très élégant, c'est, ça, de se retirer. Voilà, c'est pas du tout ronchonner.
Non, parce que je crois que j'aime pas les gens qui ronchonnent. Donc je sais pas parler d'eux. Donc je sais pas leur donner des traits de caractère parce que je les évite, les ronchons.
Je comprends, mais enfin il y en a beaucoup quand même.
Oui, mais je crois que je passe mon chemin et que je ne m'attarde pas.
Bon, là, je crois qu'il y aurait un petit livre à écrire pour nous dire comment éviter les ronchons qui sont sur notre chemin.
Faut pas perdre de temps parce que un ronchon reste un ronchon. Donc il faut.
Il peut pas évoluer.
Je crois pas parce que je crois que c'est dans son ADN, dans ses gènes, tout sera sujet à ronchon. Non. Moi je crois que justement il faut. On choisit aussi les gens avec lesquels on s'entoure, qu'on a envie de voir, qu'on a envie de côtoyer. Alors on peut en côtoyer évidemment d'une manière professionnelle, mais
au bureau.
Oui, mais bon, il suffit de répondre assez vite au téléphone et de pas traîner. Il faut sur une réunion, on peut montrer à ce moment-là un désaccord à celui qui n'est pas d'accord. Mais ça aussi, c'est l'échange. Enfin, je crois qu'il faut pas perdre de temps quand on n'a pas envie d'être confronté à des gens qui ont un caractère qui pourrait être un peu, comme disent les jeunes aujourd'hui, un peu polluant.
Oui, polluant, toxique, polluant.
Oui, voilà.
Ce sont les mots à la mode.
Mais personnellement, je ne perds pas de temps.
Il y a à la FNAC et à Cultura, enfin, et autres librairies, des tas de livres sur ce thème, comment ne pas se faire polluer. Donc, les gens ne l'ont pas aussi spontané que vous. Peut-être faudrait-il écrire une nouvelle méthode.
L'évitement.
D'accord. Alors, donc, on a vu que ce Sébastien... Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire de Sébastien. Il faut que vous lisiez le quatrième tome. Parce que Sébastien est un personnage très attachant et qui traverse des épreuves. Il y a aussi une question que je voulais vous poser. Puisque vous êtes toulousaine de cœur et d'âme, on a fait un parallèle avec le rugby, mais vous ne parlez pas du bel canto, alors que vous parlez du théâtre dans votre livre, puisqu'il y a... Alors c'est vrai que le théâtre, les 3T à Toulouse, le théâtre, c'est très important, le Sorano, etc. Mais vous ne parlez pas du bel canto. Et alors à Toulouse, ça fait partie de... C'est comme la violette, le pastel...
C'est le patrimoine de Toulouse, mais c'est le patrimoine, et Dieu sait qu'il a été... C'est formidable, le bel canto. Sauf que là aussi, c'est pas un roman qui se prête à vanter les qualités patrimoniales de Toulouse. C'est une histoire d'amitié. Que ceux qui aiment Toulouse, ils retrouveront voilà certaines valeurs. Mais vous avez raison. Mais je n'ai pas écrit un livre sur Toulouse.
Oui.
Voilà.
Mais moi,
ça
j'ai
se passe
senti
à Toulouse.
Toulouse.
Oui, mais je comprends. Mais ça parle de Toulouse. Ça se passe en partie à Toulouse.
Ou dans la région. Enfin,
voilà,
c'est la région.
Toulouse
et sa région.
Mais c'est vrai que je n'ai pas fait un album de tout le patrimoine de Toulouse parce que j'ai plus voulu parler de tempérament, de caractère, d'amitié.
Et de franchir les étapes.
Oui.
Je dirais de franchir les étapes, l'amitié et le franchissement des étapes et avancer.
Exactement.
En fait, voilà, qui me semble vraiment être votre tempérament. C'est vrai que moi qui ne suis pas toulousaine, mais qui habite Toulouse depuis 40 ans, je suis tombée amoureuse de Toulouse et je trouve normal, dans mon amour pour cette ville rose, de parler de ses nombreuses qualités, parce que c'est quand même exceptionnel d'avoir autant d'atouts pour une ville.
Bien sûr, mais je comprends. Peut-être que dans une autre situation, dans un autre livre, peut-être que je serai amenée à vanter justement tous les mérites de Toulouse. Mais voilà, là, ça ne se justifiait pas. Voilà.
Alors, j'entends bien qu'il y a un projet sous-jacent à, après ces 4 tomes, de Un verre de rosé très clair, très frais, et le dernier tome s'appelant Sébastien aussi. Qu'est-ce qui nous attend pour le futur, Aude Hervé ?
Alors, quelque chose de complètement différent. Vraiment, il n'y aura pas de parallèle à faire entre ces 4 tomes et ce roman qui pourrait peut-être paraître dans quelques années. Donc, vous voyez, je mets tout au conditionnel et j'essaie de gagner beaucoup de temps.
Rien n'est commencé.
Si, c'est commencé.
Ah, c'est commencé.
C'est commencé, mais ça demande un énorme travail puisque là, c'est un roman. Et sans fierté aucune ni de comparaison, mais si on peut évoquer un auteur que j'adore qui s'appelle Signol, c'est le terroir, c'est des sagas familiales. Eh bien, voilà, ce que j'ai commencé à écrire, s'inspire de cette tradition-là. On est entre 1900 et 1950, et là, on est vraiment à Toulouse. Voilà.
D'accord, là nous dévorons votre famille et la vie de Toulouse, ou c'est une saga familiale ou une saga toulousaine ?
C'est une saga familiale, dont évidemment peut-être que j'ai puisé quelques références dans ma famille, mais ce n'est aucun, jamais autobiographique du tout. Voilà, d'abord
D'accord.
parce que je n'étais pas là dans ces années-là, mais en plus, non, c'est quelque chose de complètement différent. C'était destiné à mes enfants le soir pour qu'ils s'endorment. Et mon fils aîné Victor réclamait ça voilà, à corps et à cri le soir pour dire et la suite, et la suite, et la suite. Donc voilà, j'essayais de répondre à la demande.
D'accord, même si maintenant cet enfant est un adulte.
Exactement, mais qui garde toujours cette sensibilité justement sur le terroir, la campagne. Puis c'est les valeurs de tradition, c'est les valeurs de famille, c'est je crois l'attachement en tout cas que nous avons su transmettre mon mari et moi à nos 3 enfants.
Je crois que ce sont des valeurs toulousaines aussi. Les Toulousains sont très chauvins sur leur histoire, leur famille, leur région. C'est vraiment assez particulier, je trouve.
Très.
Moi qui viens d'une autre région de France, j'ai été frappée de voir ça. Nous allons maintenant écouter une chanson qui, à mon avis, vous représente sur votre optimisme. Je vous laisse la deviner. Nous allons l'écouter.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.
il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le midi.
Parole d'auteur. Bellita de Bongi.
Nous reprenons notre entretien avec Audermet, un verre de rosé très clair, très frais, Sébastien. Pour définir la personnalité d'Audermet, nous venons de vous faire entendre Michel Fugain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire que la vie. Je crois que c'est vraiment un trait de son caractère et c'est un trait de caractère de ses romans. Donc voilà, nous avons choisi, pourquoi nous avons choisi cette musique qui la caractérise. Nous allons reprendre quelques questions à notre autrice toulousaine qui va nous présenter certainement d'autres livres d'ici quelques années. Et je voulais lui poser une question, Audermet, sur l'amitié. À notre époque, on parle beaucoup de solitude, des problèmes de solitude. Est-ce que vous pensez que ces amitiés que vous écrivez dans vos romans sont classiques, habituelles, ou est-ce que c'est exceptionnel ce que vous avez... Parce qu'on a l'impression que c'est quand même quelque chose que vous avez vécu, ces amitiés.
Alors oui, hein? Oui, c'est des amitiés que j'ai connues et que je continue à connaître. D'abord parce que j'ai la grande chance d'être restée quasiment toute ma vie à Toulouse, mis à part... un petit écart à Paris, mais enfin... non, c'est une amitié connue. Pourquoi ? Parce que, pareil, un environnement familial très proche, avec beaucoup d'amis autour. Donc, ce sont des maisons pleines qui se retrouvent le week-end, qui partent en vacances. Donc, c'est presque des cousins à ce stade-là. Des amitiés très fortes. Encore une fois, il n'y a pas de lien de sang. Mais enfin, c'est presque...
C'est tout comme.
C'est tout comme. Mmh. Et c'est vrai que... Oui, l'amitié après l'amour, c'est quand même une des plus belles valeurs.
Certainement, oui.
Donc, les deux commencent par un grand A. Après, l'amitié se cultive, comme l'amour.
Oui.
L'amitié s'entretient, comme l'amour. L'amitié, c'est des petits gestes, c'est des témoignages, c'est un petit coup de fil, c'est une attention, c'est être là quand il faut. Il n'y a pas besoin de s'appeler tous les jours pour se dire qu'on est amis. Par contre, il faut être là le jour où il y a ce besoin. L'amitié sent les choses, l'amitié s'anticipe, l'amitié se crée. Donc oui, c'est un, je pense, un des plus beaux sentiments que l'homme peut partager dans sa nature humaine et dans ses rencontres. Oui.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. L'amitié ô combien importante dans nos vies pour rester harmonieux. Est-ce que vous pensez qu'on l'apprend à l'école, ce que c'est que l'amitié ?
Je ne sais pas si on l'apprend, mais elle peut naître à l'école. Par justement des faisceaux de cours de récréation, de celui qui a son stylo encre qui coule et celui d'à côté va lui prêter le sien. Ça peut être le lieu. Alors, évidemment, l'école que j'ai connue n'est plus tout à fait la même école que celle d'aujourd'hui, mais on peut inviter, les enfants peuvent inviter un camarade de classe à jouer à l'élastique, c'est ça aussi l'amitié, c'est le goûter qu'on va partager parce que l'autre n'en a pas, donc c'est le partage, c'est comprendre, c'est donc elle peut naître à l'école l'amitié, comme sur les bancs de la faculté plus tard, comme dans l'entreprise plus tard, comme au travers de rencontres, de voyages, enfin l'amitié peut être partout à condition de vouloir aussi l'avoir aussi.
C'est le contraire de rivalité.
Mais la rivalité est odieuse.
La rivalité est odieuse et c'est un mot qu'on entend beaucoup, par contre, à l'école.
Trop. Trop.
Oui.
Trop, et c'est là où, bon, l'éducation est importante et le rôle de l'école est très important. Montrer là aussi que tout le monde est différent, mais tout le monde peut s'entendre. Donc,
Oui, c'est bien mon avis, mais malheureusement, nous sommes loin du compte.
Très et trop loin, peut-être qu'on n'a pas été assez vigilant aussi ces dernières années pour entretenir et donner... c'est facile d'avoir de la rivalité, de la jalousie, c'est facile de critiquer, c'est très facile d'être méchant,
c'est le premier instinct. C'est le premier instinct. Je ne pense pas que les enfants soient comme ça naturellement. Je pense que naturellement, les enfants sont assez gentils entre eux, mais après,
Après, il peut y avoir ce qu'on appelle le phénomène de groupe, qui est odieux, c'est que...
Oui, qui n'est pas surveillé
voilà,
à l'école.
Voilà, qui peut ne pas être vu, compris par... ça appelle une extrême vigilance et ça appelle à l'éducation. L'éducation a un rôle très important et de plus en plus aujourd'hui, parce que quand elle fait défaut... ça se voit tout de suite.
Elle fait très souvent défaut. J'ai interviewé il y a quelques mois ici une jeune femme qui avait écrit un livre sur la méditation, apprendre la méditation aux enfants, et son livre était réservé aux jeunes enfants. Et cette jeune femme a écrit ce livre parce que le Dalai Lama a dit, dans ses citations nombreuses et retenues, que si tous les enfants faisaient de la méditation aujourd'hui, il n'y aurait plus de guerre dans un siècle. Et donc, cette jeune femme commence à enseigner la méditation de façon douce, bien sûr, pour les enfants, en leur faisant rappeler qu'ils peuvent faire. C'est facile à faire, en réalité. Donc, ça, c'est un thème que j'ai retenu, qui me paraît essentiel pour moi qui suis grand-mère et qui regarde autour de moi et qui a envie que la société avance positivement. Mais ce thème de l'amitié, je trouve qu'on n'en parle pas assez, il me paraît fondamental. Je trouve que les émissions, la radio, les journaux, la presse que je dévore ne parlent jamais de l'amitié. On parle plutôt des trahisons. Et vous êtes un peu exceptionnel à faire 4 bouquins sur l'amitié et l'amitié qui tient. Voilà, oui. Et visiblement, quand on vous voit, vous avez l'air extrêmement sereine et épanouie.
Vous savez, les médias, la vie, encore une fois, c'est facile de se nourrir des mauvais traits de caractère et la société dans laquelle on vit nous le montre au quotidien qu'effectivement, tout le monde ne s'aime pas. Et donc, certains en font un commerce.
Commerce, oui.
Alors que ce soit dans des émissions de télé, que ce soit dans les journaux, donc à différentes échelles. C'est vrai,
L'agressivité est à la mode, mais, quand même.
Mais plus on en parle, plus on crée le fossé. Et justement, moi, je regrette que la télé ne soit pas plus ouverte à des histoires... plus gai, plus solide, plus familial,
plus humaine, plus
humaine. Et je crois que tout le monde y gagnerait.
J'en suis persuadée, mais pour le moment, je ne vois pas l'ébauche. Vraiment, je ne vois pas un petit doigt mis dans cet engrenage du positif, en fait.
Il faut l'espérer parce que ça peut devenir une urgence, comme on nous parle de climat et d'environnement et de nature.
Oui.
Je pense que aussi la nature humaine peut devenir une urgence dans l'éducation, la pédagogie a montré que il faut quand même donner le meilleur de soi et puis accepter les différences des uns et des autres. Mais accepter ne veut pas dire tout accepter. Il faut éduquer.
Écoutez, je suis ravie de vous entendre parler de nature humaine. Seriez-vous écologiste sans le savoir ?
Alors, non. Je ne suis pas l'écologiste dogmatique, doctrinaire, tel que aujourd'hui elle nous est présentée. Je suis écologiste dans mon cœur. Je suis écologiste parce que j'aime la nature, parce que je souhaite effectivement qu'on la soutienne, qu'on la défende, parce que je pense qu'effectivement, pendant des années, on n'a pas assez veillé à ce merveilleux bijou cadeau du ciel. Par contre, je ne suis pas sur tous les interdits. Je ne suis pas sur tout ce que on nous oblige à penser. Là aussi, j'ai envie de croire en l'humain, à chacun de prendre ses responsabilités, de savoir que On peut mettre des bouteilles de verre dans un sac et pas mélanger avec l'ensemble. On peut arroser à bon escient. On peut faire beaucoup de choses pour la nature qui nous le rend mille fois, parce que je suis presque une contemplative par instant. Je m'émerveille de la nature, mais je ne suis pas une dogmatique doctrinaire du sujet.
Non, ça c'est certain. De toute façon, les livres que vous avez écrits prouvent bien que vous n'êtes pas du tout dogmatique, doctrinaire, et que vous ne pensez qu'en réalité qu'au trait de l'âme.
Oui, oui.
Pardon pour ce mot, mais au trait du cœur, je voudrais...
Complètement,
Il n'y a que ça qui vous intéresse en réalité.
Mais oui, oui, oui. Et puis l'humain, je pense que si on... là aussi, l'école aura son rôle, l'éducation, la famille, les parents, tout le monde a ce rôle important pour préserver dame nature, encore une fois un cadeau, mais pas en prenant soit des coups de bâton parce que un jour on se trompe, on met une bouteille de plastique avec une bouteille de verre. La culpabilité a ses limites à un moment donné parce qu'elle entraîne justement l'effet inverse. Donc je crois qu'il faut là aussi en parler avec les bons mots et donner la pleine mesure à tout le monde de l'enjeu. Voilà.
Je retiens ce mot nature humaine qu'on pourrait accoler à la nature et à l'écologie. Je trouve que trop souvent, l'écologie ne parle pas assez de la nature humaine et dans ses agressions, oublie la nature humaine, puisqu'il y a beaucoup d'agressivité dans toutes ces manifestations. Donc, je trouve que c'est un mot très important que vous avez eu la richesse de nous proposer. La nature humaine est aussi importante que la nature qui nous entoure. Je voudrais maintenant parler un petit peu, avant de conclure, sur votre livre, qui est quand même un plaisir à lire, un verre de rosé très clair, très frais. Sébastien, mais il faut commencer par les trois autres, Céline, Sylvie et Toscane. Je voudrais parler aussi de votre éditeur, qui s'appelle La Bruyère, et qui est un éditeur parisien. Les éditions La Bruyère sont installées rue Belleville à Paris, et ils ont fait la présentation de ces romans. C'est très agréable à lire, ça se lit, c'est bien présenté. Donc voilà, donc nous remercions les éditions La Bruyère d'avoir édité Audermet, et peut-être éditeront-ils son prochain roman, nous ne savons pas encore. Merci beaucoup Audermet de nous avoir présenté ces quatre romans pleins d'optimisme et de bon sens qui vont nous donner encore plus envie d'aimer notre ville rose. Merci beaucoup à vous et je rends l'antenne à Radio Présence.